si vous voulez en apprendre davantage sur votre corps, je vous invite à lire le livre « Pour faire une histoire courte, le corps » de Laurent Turcot et Héloïse Leglonec. C'est M. Laurent Turcot qui a accepté notre invitation pour l'entrevue. M. Turcot, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Turcot, vous êtes professeur en histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Vous êtes titulaire de la chaire de recherche en histoire des loisirs et des divertissements. Et là, vous avez décidé de nous aider à mieux comprendre notre corps, notre rapport avec notre corps, de ce qu'il fait, de ce qu'il produit. Et ça, c'est à travers le temps, à travers des époques aussi, là.
Oui, en fait, ce qui m'intéressait, c'est que, bon, à chaque fois qu'on fait quelque chose dans notre journée, on se lave, on se pète un bouton, on va faire pipi, on fait caca, etc. Mm-hmm. Je me suis posé la question, est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que toujours on allait aux toilettes? Est-ce qu'on se cachait des autres? Est-ce que cracher, c'est quelque chose qui était toujours quelque chose de mauvais? Comment on gérait notre acné et la vieillesse et la calvitie, etc.? Puis j'ai voulu montrer à travers ce livre-là, en fait, à travers cette BD-là, oui, que notre corps est construit socialement par la culture puis par l'histoire. Puis je raconte à travers des moments extrêmement drôles, puis comme oui, c'est une BD, ben il y a de l'humour.
Pourquoi?
Comment? C'est un peu absurde aussi.
Oui, pourquoi avoir décidé de le présenter en BD, justement?
Ben, parce que le corps, on peut le lire, mais il faut le voir à un moment donné. J'aurais pu faire un livre illustré avec des peintures, des photographies de l'époque, mais j'avais envie de jouer avec ça, de mettre les personnages en mouvement. Puis pour ça, il y a un acte de création, et c'est là qu'Élise Leglonec, qui est une dessinatrice française, est arrivée. Mm-hmm. Et on s'est dit qu'on avait envie de mettre ça en mouvement, puis que les gens s'amusent aussi. Pas que ça soit juste une histoire un peu faite de dates et tout. Je voulais que ça soit une histoire sensible, agréable, drôle, véritablement. Puis vous allez voir, on me voit à travers la BD qui vous suit à gauche, à droite, puis je vous explique ce qui se passe. Mm-hmm. C'est moi. Et on a aussi décentré certaines affaires. Par exemple, la table des matières, c'est pas simplement la liste des sujets, c'est l'homme de Vitruve. Vous savez, le fameux homme de Léonard de Vinci.
Oui.
Puis vous avez des pointes en voulant dire, bon, ben pour les cheveux, c'est à tel endroit, le nez, c'est à tel endroit, les lèvres, le pénis, les fesses, etc. Donc, on raconte l'histoire de tout ça, comment on le gérait dans le temps, à travers la mythologie, l'histoire, les grands événements, l'Église aussi, qui a été une grande chape de plomb qui est tombée sur les corps et les consciences, puis comment on s'en est défait, puis comment le 21e siècle aussi a transformé complètement notre rapport au corps. Ça va véritablement de la préhistoire à aujourd'hui.
Et ça vous a demandé beaucoup de recherches, là.
Oui, on a travaillé là-dessus pendant à peu près 2 ans. La manière dont on travaillait, c'est que je faisais des plans pour Héloïse. Je lui envoyais les plans avec toute l'histoire d'un thème. Ça pouvait faire 20-30 pages. Mm-hmm. Puis à partir de ça, on se disait, bon, ben comment on organise ça? Quel personnage on met de l'avant? Dans certains cas, vous allez voir, c'est assez drôle, là. Il y a toujours le personnage de l'Église catholique qui revient puis qui dit que c'est pas bon, faut cacher le corps, alors qu'il y a des gens qui disent, ben là, c'est notre corps, faut faire avec. Puis, c'est ce que je voulais faire, c'est autant croiser l'histoire de la biologie que l'histoire, la grande histoire des sensibilités, l'histoire des émotions. Parce que c'est ça, notre corps. Mmh. La manière dont on bouge, on porte avec soi un objet d'histoire, puis des fois, on n'en est même pas conscient. Puis moi, ce que je me suis donné comme mission, c'est de rendre l'histoire le plus accessible, le plus intelligible possible, comme je le fais sur ma chaîne YouTube, l'Histoire nous le dira.
OK, on va vous suivre là-dessus, bien entendu. Je vais aller voir ça. Si on donnait quelques exemples, M. Turcot, là, qu'on retrouve dans votre livre, entre autres, moi, j'ai trouvé le passage de l'urine fort intéressant parce qu'il fait un temps, là, faire pipi, là, c'était pas juste s'en débarrasser, on s'en servait de l'urine aussi, là.
Ben oui, on se servait de l'urine parce que notamment les médecins goûtaient l'urine. Il y a ce qu'on avait l'uroscopie, c'est-à-dire la roue des urines. Puis selon la couleur de l'urine, on arrivait à déterminer si vous étiez malade ou pas.
On ne pensait pas à faire ça maintenant, là.
Non, mais ça a quand même été très utile parce que c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte que les urines sucrées étaient un vecteur de diabète. Donc, des fois, on se fait absurde, mais ça menait à quelque chose de bon. Puis pour les femmes aussi, le fameux blond vénitien, les femmes se teignaient les cheveux avec de l'urine parce que ça permettait d'avoir un blond qui était immaculé, qui était magnifique. On a ce qu'on appelle aujourd'hui le strawberry blonde.
OK, oui. Le bronzage, là, il fut une époque qu'il fallait avoir la peau très blanche, surtout au niveau de la haute société. Là, c'était bien vu, là, mais il ne fallait pas avoir de bronzage.
Vecteur. C'est un vecteur de classe sociale. Quand vous aviez la peau bien blanche, ça veut dire que vous travaillez à l'intérieur. En fait, que vous travaillez pas, que vous restez à l'intérieur toute la journée, que vous avez un temps laiteux. Et ceux qui étaient bronzés, c'était des gens qui travaillaient à l'extérieur. Donc, c'était le peuple, le commun. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, le bronzage est devenu quelque chose qui est valorisé? Ben, c'est au début du 20e siècle, on a commencé à dire que le sport, c'était une bonne chose, puis le sport se pratiquait à l'extérieur. C'est quelqu'un d'entraîné, quelqu'un en santé. Donc, on a associé bronzage et santé. Mais depuis quelques années, on se dit, ben bronzage, ça peut être aussi cancérigène. Donc, de plus en plus de gens se prémunissent contre ça. L'invention des crèmes solaires, les grands chapeaux, on va à la plage, mais attention, pas trop de soleil. Donc, c'est à travers tout ça qu'on se rend compte, finalement, que l'histoire nous a conditionnés comme êtres humains à réagir de telle ou telle façon selon les événements.
Vous parlez également de certaines parties de notre corps, comme les fesses. Oui. On sait que Kim Kardashian a été un moteur assez intéressant là, pour promouvoir un peu plus cette partie de notre corps. Qu'en est-il des fesses?
Ben justement, la première vignette avec laquelle on commence, c'est qu'on voit les fesses de Kim Kardashian, puis on se dit, est-ce que les fesses pulpeuses ont toujours été celles-là? Mm-hmm. Quand on regarde des personnages comme Marilyn Monroe aussi, c'est ce qu'on appelle la taille en S des seins et de bonnes fesses, alors que on alterne souvent entre la taille en S, avec de bons seins et de bonnes fesses, et la taille en I, peu de fesses, peu de seins. Et à travers l'histoire, ça a toujours été un balancier d'aller-retour entre l'un et l'autre. Et la mode a suivi. Et tout ça est conditionné par le rapport au corps qu'on a puis la manière qu'on considère de ce qui est beau ce qui est pas beau. Mmh. Puis on voit à travers l'histoire que ça a été crucial, les fesses. C'est par exemple à la préhistoire, le fait d'avoir des bonnes fesses bien bombées, c'est ce qui nous permettait de courir vite, d'échapper aux prédateurs. Donc, on a besoin de nos fesses. Là.
Vous parlez de maquillage, de rouge à lèvres, vous parlez de, oui. Des gauchers même, de régime, et les couches. Qu'est-ce que les couches oui. viennent faire là-dedans?
Ben, les couches, c'est ce qui fait que les enfants arrivent à pas se faire pipi dessus, puis on leur apprend justement à jouer. C'est comme si c'était une extension de l'enfant. On ne peut pas concevoir un enfant sans couches. Puis aujourd'hui, on se dit, bon, ben les couches avec du plastique, c'est peut-être pas idéal. Donc, on revient aux couches qui sont en tissu. Mais tout ça, il y a rien de neuf. Souvent, l'histoire, c'est cyclique. Et ça revient comme la mode, d'ailleurs. Si vous avez quelque chose qui est plus à la mode, gardez-le dans 10 ans, ça va revenir.
Il y a plein d'autres sujets que vous proposez. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a vraiment surpris en faisant vos recherches que vous nous présentez dans votre livre?
Ce qui m'a vraiment surpris, c'est ce qu'on appelle l'histoire de l'insomnie. On a inventé une épidémie d'insomnie parce qu'avant, les gens se couchaient au moment du coucher du soleil, vers 7-8 heures, se réveillaient vers minuit, 1 heure du matin, restaient éveillés pendant à peu près 2 heures et après ça, se recouchaient. Mais quand on a eu l'invention de l'éclairage électrique, là, on a commencé à repousser l'heure de l'endormissement. Ce qui fait qu'on a commencé à se coucher à 10, 11 heures, et là, on s'attendait à ce que tout le monde passe une nuit complète, ce qu'on appelle le sommeil consolidé. Okay. Il y a plein de gens qui étaient pas à l'aise avec ça, qui ont commencé à continuer à se réveiller en pleine nuit. Et là, on s'est dit, ah, ils sont atteints d'insomnie. Alors que ce n'est pas de l'insomnie, ça a toujours été comme ça. Ça fait seulement depuis le 19e siècle qu'on fait un sommeil consolidé. Avant, on se réveillait toujours en pleine nuit, puis on faisait notre premier dodo et notre deuxième dodo. Donc, à la maison, si vous dormez pas en pleine nuit, vous êtes une personne historique, simplement.
C'est intéressant. Puis il est magnifique, votre livre. Les images là, de Héloïse Le Glonec sont vraiment superbes. C'est intéressant. C'est pour toute la famille, ce livre-là, M. Turcot.
Oui, c'est vraiment, pour toute la famille. On s'entend que, bon, c'est il y a quand même quelques éléments qui sont 18 ans et plus.
Oui, oui.
Mais si on est capable d'expliquer aux enfants ce qui se trouve, je pense que ça peut être un vecteur d'éducation et d'initiation à ces sujets-là.
Oui, effectivement. Pour faire une histoire courte, Le Corps, c'est aux éditions Urtubise. C'est un livre de 168 pages, $26.95, à avoir absolument. Quelle belle façon de terminer l'été en apprenant un peu plus sur notre corps avec Laurent Turcot. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin, M. Turcot.
Merci à vous. Au revoir.
Bonne journée.